Deutsche Welle. L'arbre à palabre.
Bonjour. Parler du secteur des transports en Afrique rime souvent avec des diagnostics catastrophiques, voire afro-pessimistes. Infrastructures inexistantes ou vétustes quand il y en a, routes mal entretenues. Bref, le tableau est assez sombre et les quelques avancées enregistrées semblent largement dominées par certains drames, à l'image de celui survenu le vendredi 21 octobre 2016 au Cameroun, entre les villes de Yaoundé et Douala. Un train qui termine sa course en pièces détachées pratiquement après avoir perdu son système de freinage, des passagers qui ne seront jamais arrivés à destination, un système de secours lent et peut-être l'improbabilité que la vérité soit connue un jour sur cet accident. Des leçons à tirer, c'est sûr. Comment en est-on arrivé là? Pouvait-on prévenir cet accident? Quel est l'état du secteur des transports dans nos pays africains? Comment expliquer que des drames du genre surviennent malgré les grands bénéfices engrangés par les exploitants? Le décor est ainsi planté pour nos discussions d'aujourd'hui. Trois invités en ligne, Mbala Elanga Edmond, sociologue, enseignant-chercheur à l'université de Douala au Cameroun. Bonjour monsieur.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent.
Merci beaucoup. Issa Abdou Nyonlihenza du Niger, enseignant au département de géographie à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Je précise que vous avez fait beaucoup de travaux concernant le transport en Afrique. Nous avons également la participation de Dr Yves Ekwe-Amaizo, directeur du Centre Afrocentricity, expert de la délocalisation. Vous êtes spécialisé dans le domaine de transfert de technologie. Yves Ekwe-Amaizo, bonjour.
Bonjour.
Chers invités, auditeurs, merci de nous rejoindre dans cette émission du programme en français de la Deutsche Welle. Au micro, c'est Fréjus Kenom. La première question à monsieur Mbala Elanga Edmond du Cameroun. Comment est-ce que vous expliquez ce qu'il s'est passé le 21 octobre 2016 dernier, le dégraillement de ce train qui a donc échoué à la gare d'Esseka, mais plutôt dans un état pas souhaitable?
Oh, je ne suis pas vraiment spécialiste de la question. Là, je veux m'en tenir à ce que certains experts en disent. Tout semble indiquer qu'il y avait un problème de surcharge, des voitures qui n'étaient pas suffisamment aptes, si je peux m'exprimer ici, à transporter le nombre de personnes qui devaient se rendre à Douala. Parce qu'il faut souligner que cet incident fait suite à un problème qui s'est posé au niveau de la route qui relie Douala à Yaoundé.
C'est-à-dire une panne qui en entraîne une autre, toujours dans le domaine des transports.
Voilà, c'est-à-dire que la route est coupée suite à des fortes pluies. La route, l'axe qui relie Yaoundé à Douala s'est coupé suite à des fortes pluies. Il y a un pont qui s'est coupé, qui s'est effondré. Donc, il n'y avait plus possibilité d'emprunter la voie routière. Donc, ce qui a amené donc tous les passagers à se rabattre au niveau du seul moyen de communication qui restait, qui était le train. Donc, à ça s'ajoutent sûrement des problèmes liés au système de freinage des voitures. Mais bon, peut-être l'enquête qui va déterminer exactement quelles sont les causes de cet accident-là.
Oui, vous avez évoqué beaucoup d'éléments, notamment un problème qui se pose et auquel, bien sûr, on peut trouver une solution. Cet afflux de passagers, on peut le gérer juste en prenant des précautions et c'est apparemment l'absence de précautions qui se pose comme problème. Issa Abdou Nyonlihenza, vous avez suivi depuis le Niger un peu ce qui s'est passé au Cameroun. Qu'est-ce que vous nous en dites?
Oui, merci. Moi, je dirais que, en fait, ce qui s'est passé au Cameroun, en fait, traduit les difficultés, hein, globalement, dans la mobilité des personnes et des biens, alors, qui constitue l'un des obstacles majeurs à l'amélioration des conditions de vie, hein, des populations, d'une manière générale, celle de l'Afrique en particulier. Et cela traduit, en fait, un dysfonctionnement, en fait, de la chaîne de transport, et qui se traduit d'abord par une faible densité du maillage. Et je vais te parler du maillage routier, du maillage ferroviaire et aéroportier. Or, l'objectif d'un système de transport doit être d'offrir aux populations la possibilité d'un accès facile, hein, aux lieux et aux activités. Or, cette accessibilité donne la mesure de la qualité de la desserte des lieux. Et l'organisation, l'aspect organisationnel du secteur des transports, qui souvent végète plus dans l'informel.
Pourtant, il y a beaucoup d'argent, hein, beaucoup d'argent qui est engrangé, hein, dans ce secteur.
Exactement.
Ouais.
Mais l'autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est la vétusté des infrastructures qui est liée à l'entretien, au renouvellement de l'existant. Et cela traduit aussi le fait que les stratégies des acteurs n'ont eu qu'un impact limité sur l'amélioration des infrastructures et des conditions de mobilité d'une manière générale.
Merci
Voilà.
beaucoup, Monsieur Nyonlienza. C'est vrai que le secteur des transports n'est qu'un maillon de toute la chaîne de développement sur le continent. Et lorsque les autres maillons sont malades, on ne comprend pas bien pourquoi il y aurait que le secteur des transports qui se porte bien, docteur Yves Ekwueamaïso.
Vous avez entièrement raison. Je partage d'ailleurs tout ce qui vient d'être dit. Mais moi, je serai beaucoup plus sévère sur ce qui s'est passé. La performance logistique de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas la peine de donner des chiffres pour vous fatiguer, mais ce qu'il y a de sûr, le Cameroun est largement en dessous. C'est-à-dire que le Cameroun n'arrive pas aujourd'hui à avoir en gros la moyenne d'une circulation à peu près adéquate de ses populations, quel que soit le type de transport qu'ils choisissent. Un problème de la route se traduit sur le rail, ce n'est pas normal de manière générale. Il y a un problème d'organisation. Et je dirais même de management. Ce problème de management vient alors de ceux qui décident d'organiser le système du transport, donc, et dans ce cas particulier, essentiellement l'État, mais l'État donne en concession. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui gère cette histoire. C'est le groupe Bolloré local. Il faudra donc qu'on ait le temps d'en parler. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième, c'est la facilité avec laquelle nos États communiquent. Sur le cas du Cameroun, nous avons entendu les freins relativement faibles. Nous avons entendu la vitesse, mais il y a d'autres éléments beaucoup plus importants que mon premier collègue a souligné. Par définition, vous avez l'accident qui est arrivé.
Donc, ce que vous mettez en cause, au fait, c'est l'absence de prévision ou bien, disons, d'anticipation sur ces dangers-là?
Si nous mettons ça dans le cadre du management, que ce soit la prévision, tous ces éléments font partie du management en général. C'est-à-dire qu'il y a un management de l'efficacité.
Ouais.
C'est très important et nous ne l'avons pas dans beaucoup de secteurs africains.
ouais,
C'est
mais
un management du politique.
Mmh.
C'est ce management du politique qui crée des situations que nous venons de déplorer avec des morts, avec des blessés. Et on nous annonce d'ailleurs que l'État prend en charge à 100% les malades. Nous avons essayé de téléphoner à gauche et à droite. Ce n'est pas tout à fait vrai.
Merci, docteur Ekwueamaïso. Vous avez commencé par signaler que le Cameroun était donc un maillon faible pour ce qui concerne l'Afrique en matière donc d'infrastructure. Issa Abdou Yonliriza, rapidement, vous êtes au Niger. Vous connaissez, par exemple, quand on parle d'organisation commune Bénin-Niger qui exploite, disons, le secteur ferroviaire. Que pouvez-vous nous dire? Est-ce que le Cameroun est si mauvais élève que ça? Quel est l'état du train, par exemple, entre le Bénin et le Niger?
Bon, je commence par dire qu'en Afrique de l'Ouest, le Niger est le seul pays qui ne possède pas un chemin de fer fonctionnel. Actuellement, nous avons un bout de chemin de fer de 240 km, mais qui n'est pas utilisé. Donc, le Niger, actuellement, demeure le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui ne dispose pas. Mais, pour autant, il existe une organisation qu'on appelle l'OCBN. Organisation commune Bénin-Niger, qui était chargée d'exploiter, d'organiser toute la chaîne de transport ferroviaire entre le Bénin et le Niger. Mais actuellement, c'est un maillon qui ne fonctionne pas bien. Mon collègue a bien parlé de Bolloré, qui a ficelé un projet de réhabilitation de ce chemin de fer-là, de Cotonou à Niamey, et qui, d'ailleurs, est le porteur de projet de la construction actuellement du chemin de fer qui part de Niamey à Parakou, mais qui n'est pas encore achevé. Toujours est-il qu'il a parfaitement raison de parler d'un problème de management. On se retrouve devant des défis multiformes.
Oui.
Économique, stratégique et politique. Économique parce que le rail est nécessaire pour accélérer le désenclavement d'un pays comme le Niger. Alors, stratégique parce que la position géographique du Niger le place au cœur de l'Afrique de l'Ouest et des pays sahéliens et en fait le trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique côtière. Et dès lors, la construction de la ligne de chemin de fer qui passe par le Niger est indispensable pour accompagner les politiques régionales et sous-régionales d'intégration économique.
Mais ce n'est malheureusement pas le cas actuellement. Voilà. Mbala Elanga Edmond, c'est la deuxième fois qu'on évoque donc des problèmes de management. Mais pourquoi? Pourquoi il y a des problèmes en termes donc de contrôle, de prise en charge du secteur des transports? On dit que la route du développement passe par le développement de la route, mais ça ne semble pas le cas dans beaucoup de pays africains.
Ça ne semble pas le cas dans beaucoup de pays africains. Vous avez mis en exergue un problème qui est un problème systémique et global. C'est-à-dire que s'attarder sur la question du transport, c'est juste parce que cet accident est survenu. Mais il s'agit là du fonctionnement de nos pays en réalité. Quand vous avez des gens qui s'éternisent au pouvoir, vous avez absence de contrôle, absence de sanctions, etc., etc., je vois mal comment vous pouvez avoir des très bonnes infrastructures routières, des aéroports fonctionnels. Vous savez, le Cameroun aujourd'hui est quand même l'un des rares pays qui dispose de plusieurs aéroports. Sur les 10 capitales régionales, il y en a 9 qui disposent d'un aéroport. Dernièrement, il y a eu des vols qui ont commencé entre Yaoundé, Douala et Bafoussam. Mais si cela a été multiplié par dans toutes les autres, il y aurait beaucoup de problèmes qu'on pourrait résoudre. Vous prenez par exemple là où il y a eu l'effondrement du pont entre Yaoundé et Douala. C'est-à-dire qu'en réalité, l'axe de cet axe n'est pas seulement l'axe entre Yaoundé et Douala, parce que le Cameroun dessert les autres pays de l'Afrique centrale, qui sont le Tchad et la Centrafrique. Mais si vous regardez l'état de cette route aujourd'hui, sa largeur, le trafic qu'il y a sur cette route, il y a eu des chiffres, en toute proportion gardée, que cette route est l'une des routes les plus pratiques au monde. Mmh. C'est-à-dire que si vous prenez le volume de marchandises, vous prenez le nombre de véhicules, non, je ne pense pas que ce soit uniquement un problème des infrastructures routières. Il s'agit d'un problème du fonctionnement et du management de la gouvernance de nos États. C'est de ça dont il est question.
Docteur Ekwe Amaizo, vous avez effectivement donc doigté l'incapacité managériale, autant en termes politique qu'en termes économiques, mais n'est-il pas abusif de faire l'analyse juste par ces phénomènes qui surviennent aujourd'hui? Est-ce que depuis par exemple les indépendances jusqu'à maintenant, il n'y a quand même pas eu des avancées, des choses positives qui se sont déroulées dans le secteur des transports?
Non, écoutez, moi j'ai participé à la décennie pour le développement du transport avec les Nations Unies, et donc sincèrement, sur plus de 20 ans, on a suivi ce problème de l'interconnexion des transports. J'ai moi-même été expert pour l'Union africaine. Donc, quand vous voulez parler d'avancement, qu'on soit clair, si vous partez de zéro, il ne peut y avoir que de l'avancement. Bien sûr qu'il y a des avancements dans tout ce qui se fait en Afrique. On n'est pas resté statique, on n'est pas resté immobile. Ce n'est pas de ça que je parle. Tous les jours, les pays font des efforts pour améliorer leurs routes, infrastructures et communications. Ce n'est pas ça le débat. Le débat que je veux que vous ayez à l'esprit, c'est cette histoire d'efficacité. On ne peut pas être efficace si on introduit de la politique ou l'ésotérisme dans des activités, en gros, dites scientifiques, dans le domaine du transport, l'infrastructure.
Mais comme on parle de capacité, lorsqu'on crée soi-même quelque chose, peut-être qu'on est plus capable de contrôler cette chose. Est-ce que,
alors,
concrètement,
est-ce que nous sommes incapables de
gérer des infrastructures que nous ont laissées les colons?
Non, pas du tout. Ne parlez surtout pas à un Africain qu'il est incapable de quoi que ce soit. Je vous fais remarquer que l'invention des pyramides vient de l'Afrique. Donc vraiment, n'allez pas sur ce terrain-là. C'est un terrain qu'ils essayent de faire un certain nombre de gens. C'est faux. Nous sommes capables de tout. Qu'on soit d'accord là-dessus. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai un site qui s'appelle Afrocentricité. Repenser les problèmes d'un point de vue des Africains. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Regardez bien la situation. Si ceux qui décident, on en a parlé tout à l'heure, manque de démocratie, ils s'éternisent au pouvoir, ils ne veulent pas changer parti, etc. Donc ça devient clanique, ça devient politique, ça n'est plus efficace. C'est ça le problème. Quand on cherche l'efficacité, on a d'autres objectifs. On cherche des individus qui ont la compétence, le savoir, l'expérience pour pouvoir faire un travail X, Y, Z, si possible africain. Et quand on le fait, je vous dis que ça marche. Je suis dans un pays, l'Autriche, où l'Autriche, depuis le début, même pour ses poubelles, a interdit qu'un étranger ne vienne ramasser ses poubelles, a imposé que ce soit des Autrichiens qui le fassent. Si nous avons fait ça en Afrique dans nos contrats de concession, nous n'en serions pas là. Il n'est pas normal qu'une concession soit donnée à des étrangers pour gérer notre port, pour gérer notre rail, voire même nos routes.
C'est justement la question.
Un exemple pour vous donner à quel point c'est même dangereux. Il y a un chemin de fer qui vient de se terminer en 4 ans seulement. En 4 ans, c'est un véritable succès. Entre Addis Abeba, en Éthiopie, jusqu'à Djibouti.
Et ce sont les Chinois qui sont à l'œuvre. On va voir dans quelques années si ça tient.
Voilà le problème que je voulais vous faire dire. C'est bien des Chinois qui sont à l'œuvre. Ils viennent avec le financement. Ils viennent aussi avec quoi? les individus qui font le travail. Donc, ils ne créent pas des emplois pour les nationaux. Et au-delà de ça, je vous dis que quand vous rentrez dans ce train, c'est le Chinois qui contrôle votre ticket. Vous voyez à quel point nous, les Africains, avons décidé que nous sous-traitons tout. Alors, bien sûr, c'est efficace puisque ça marche et que du coup, le train fonctionne. Sauf que ce ne sont pas des Africains. Donc, quand vous allez faire des réparations, c'est écrit en chinois, je vous mets au défi de le réparer rapidement, etc. Donc, il y a un problème culturel fondamental chez nos dirigeants ou certains de nos dirigeants africains qui passent leur temps à vouloir des solutions de facilité en sous-traitant. Oui. On peut sous-traiter à des Africains. Tous les gens que vous avez invités aujourd'hui, si vous les mettez en charge du transport, je vous garantis qu'ils vous réussiront, quel que soit le secteur que vous leur donnez.
Je n'en doute pas un seul instant, mais Elanga Edmond, tout à l'heure...
C'est-à-dire qu'il y a un refus systématique de faire confiance à des Africains compétents.
Oui, mais comment comprendre cela? Oui, monsieur Mbala Elanga Edmond, Yves Kouya-Meizo a tout à l'heure dit que les Africains étaient bien capables, mais pourquoi alors confier des choses quand on regarde un peu dans le secteur ferroviaire? Au Cameroun, vous-même vous avez évoqué tout à l'heure que c'est Bolloré qui est à l'œuvre. On a entendu tout à l'heure qu'entre le Bénin et le Niger, c'est Bolloré qui est aussi à l'œuvre pour la résurrection du chemin de fer. Les infrastructures portuaires également sont sous le contrôle de Bolloré. Pourquoi est-ce qu'on est capable, mais on cède l'exploitation aux autres? Est-ce parce qu'ils sont plus compétents?
Je ne pense pas, mais avant de répondre à votre question, je dirais que si vous prenez le cas du Cameroun en ce qui concerne les rails, il n'y a même pas eu avancée. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un kilomètre en plus, dit le contraire. On a eu des kilomètres qui ont disparu. Parce que le rail que nous avons au Cameroun, je peux vous assurer que c'est le rail laissé par les Allemands à leur départ. C'est-à-dire que vous avez des lignes, vous avez plutôt des lignes qui rejoignent certaines villes qui ont disparu. C'est-à-dire que c'est lieu qu'en termes d'avancée, il n'y a même pas eu, comme le collègue disait tout à l'heure, qu'on est parti de zéro à 10 et qu'on peut parler d'avancement. Non, on peut plutôt dire qu'on était à 100 par exemple et on est descendu à 50 ou 75. Donc c'est ce qui se passe si vous prenez que le secteur de rail. Donc en Afrique, vous avez même des secteurs où il y a régression, s'il faut être objectif. Maintenant, par rapport à votre question, mais allez demander à ceux qui sont au pouvoir en Afrique, un peu partout, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon et autres, pourquoi ils cèdent quasiment la totalité de ce qui concerne leurs ports et autres à Bolloré. C'est vrai qu'il y a des gens qui convoquent, je ne suis pas spécialiste de cette question, il y a des gens qui mettent souvent en avant la question de l'efficacité parce que vous savez aussi, pour gérer un port, pour gérer un chemin de fer, ce n'est pas seulement un problème d'expertise et autres. Il faut aussi avoir les moyens financiers de pouvoir mobiliser des fonds à l'international. Mais il faut dire que si nous ne commençons pas déjà à former nos propres économies, à être des économies endogènes, c'est-à-dire qu'avoir des hommes d'affaires qui soient capables de soutenir nos économies, mais nous n'allons pas nous en sortir, nous serons à chaque fois bouffés, si vous me permettez, par les Occidentaux. Il y a un autre problème qu'il faut associer à celui-là. Quand vous regardez beaucoup de pays africains, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Vous prenez le cas du Cameroun, vous avez des milliardaires au Cameroun qui sont capables d'acheter certaines entreprises, qui pouvaient racheter ces entreprises privatisées-là. Mmh. Parce que le plus souvent, ceux qui sont au pouvoir se méfient davantage des locaux, parce qu'ils savent que ces locaux peuvent être à moyen ou à long terme des groupes de pression assez importants. On préfère donc de continuer à donner, à céder des entreprises à des étrangers qui, eux, n'ont qu'un seul objectif, c'est d'avoir une plus-value, alors que si c'était des nationaux, ces nationaux devaient quand même avoir le souci de la rentabilité, certes, mais le souci aussi du développement de leur localité.
Issa Abdou Nyonlirenza, vous, de votre point de vue, en Afrique de l'Ouest, est-ce que vous avez le sentiment que, effectivement, l'infrastructure des transports en Afrique est un peu victime de toutes ces combines?
Oui, j'ai ce sentiment-là. On a l'impression, comme l'a dit mon prédécesseur, que le secteur du transport est laissé entre les mains des dirigeants et puis des sociétés extérieures.
Comment faire pour sortir de ces difficultés, de cet tâtonnement qui n'en finissent pas concrètement? Et il y a des morts d'hommes. Pourquoi est-ce que les gens doivent continuer à mourir alors que leur souhait, c'est juste pouvoir se déplacer et mener leurs activités?
Moi, je suis convaincu, si je prends l'exemple du rail nigérien, la concrétisation permettra de répondre à un rendez-vous de la mondialisation à condition que le futur organe de gestion fasse preuve de rigueur de la gouvernance technique, d'abord, administrative et financière. Sans cette rigueur, on se retrouvera dans la même situation de mauvaise gestion qu'a connu l'OCBN et des problèmes du genre des accidents qu'on a connus au Cameroun.
Docteur Yves Ekwe Amaïzo, vous êtes donc du domaine du transfert des technologies. Que pouvez-vous nous dire de ce point de vue-là? Comment est-ce qu'on peut sortir autrement?
Pour sortir, ce n'est pas compliqué. Il faut faire confiance aux Africains qui sont compétents et qui ont de l'expérience. Vous en avez au niveau national, vous en avez dans la diaspora, et l'association des deux ne peut que donner de très très bons résultats. Maintenant, cela étant dit, il y a trois choses que je crois qu'on a peut-être oubliées. Les rétrocommissions que vous avez sur ces grands contrats d'infrastructure sont très importants. Et du coup, la plupart des dirigeants dans cette histoire, dont la durée de vie au pouvoir est souvent très courte pour ce qui est des ministres, et il est très long si on utilise l'armée pour rester au pouvoir, fait qu'ils ne sont pas intéressés à ce que la population, encore moins les nationaux, soient au courant. C'est pour ça que pour très souvent, ces rétrocommissions, la corruption au sens noble du terme, se fait en dehors des nationaux, sauf ceux qui, bien sûr, participent au cercle fermé. Il faut le dire, parce que c'est un des éléments qui fait que ça part souvent vers des étrangers qui jouent le jeu à fond et qui se permettent justement de faire des infrastructures dont la qualité sont défaillantes. Ils ne subissent pas justement de contrôle, encore moins des sanctions. La deuxième chose, quand on nous dit qu'il y a des difficultés de mobilisation de fonds, c'est faux, je suis financier de formation. Hein. Quand vous donnez la garantie de l'État, je peux vous amener quasiment toutes les technologies que vous voulez, qu'elles soient neuves ou d'occasion, et vous pouvez les exploiter avec de la formation. Mais nous avons un problème particulier avec la zone francophone. C'est que cet espace francophone, le précaré, la France-Afrique, mettez le nom que vous voulez, par définition, a des problèmes de fond avec notre développement. Si vous devez développer, transformer vos tomates ou bien faire de les routes et des infrastructures, ça ne les arrange pas fondamentalement. Donc, le principe stratégique, c'est que vous développez, oui, mais avec tellement de retard qui sont toujours là, ce qui explique la présence des gens comme Bolloré. Je vous rappelle qu'au Bénin, il y a un national, un certain monsieur Dossou, qui était là, qui a même gagné, qui a même fait des procès, qui l'a gagné. Donc vous voyez bien que jusqu'à maintenant, l'État est en train de négocier qu'il y ait un arrangement entre les deux, alors qu'il s'agissait simplement d'appliquer la décision de justice qui a donné raison au local pour faire le transport ferroviaire là-bas. Donc vous voyez, donc ces problèmes-là, il y a quand même, je pense, un problème de base qui est lié aux rétrocommissions, l'argent facile, rapide, si possible, dans la non-transparence totale. Donc je vous dis que les solutions, il y en a. Elles sont faisables, réalisables, avec des efficacités extraordinaires.
Donc il nous faut de la vision, pour résumer.
Il faut l'ensemble de tout ceci. On l'a d'ailleurs dit dans tout le débat, d'ailleurs. Il ne faut pas un individu pour changer quoi que ce soit dans le transport. C'est tout un ensemble de compétences. Mais il faut faire confiance aux nationaux. Et quand les politiques ne sont même pas dans leur pays, quand ces choses arrivent, et qu'il faut attendre qu'ils rentrent avant qu'on commence à donner des explications aux populations, on est encore plus dans quelque chose de grave.
Bien sûr, il y a cette déconnexion, effectivement, entre le politique et les réalités vécues par les populations. Et nous revenons donc sur ce point au Cameroun, avec le dernier mot de M. Mbala Elanga Edmond. Est-ce que vous croyez qu'on saura la vérité, on ne saura jamais la vérité sur ce drame que dites-vous de cette, disons, déconnexion entre donc les politiques et les populations à la base?
Ce qui est sûr, c'est que certains auront la vérité. Je ne pense pas que la majorité aura cette vérité-là. Je sais qu'au Cameroun, vous avez des gens très compétents pour mener des enquêtes, pour produire des documents. Maintenant, le problème n'est pas à ce niveau. Sûrement que ces gens vont trouver ce qui s'est réellement passé. Mais maintenant, est-ce que les résultats de cette enquête-là seront connus de tout le monde? Est-ce qu'il y aura des sanctions? C'est à ce niveau-là que se pose le problème. Je doute fort que, connaissant un peu comment se passent d'habitude les choses au Cameroun, qu'on va aller jusqu'au bout de ce qui a été mis en place par le président de la République. Tellement, il y a, mon collègue a parlé tout à l'heure des questions de corruption, des questions de népotisme, des questions de favoritisme, de clientélisme et autres. Il y a tellement d'intérêt dans cette affaire que je ne suis pas sûr. Vous avez des gens qui ont donné des chiffres en disant qu'il y a eu plus de morts que ce qui a été déclaré. J'étais dans une émission sur une chaîne de télévision locale ici à Douala où je posais justement la question, à savoir que si le gouvernement ne publie pas la liste exacte des nombres des victimes, mais il ne faut pas être surpris que les assurances qui sont chargées d'indemniser les populaires, les victimes n'indemnisent pas tout le monde. Parce que vous n'allez pas demander à une entreprise, à une compagnie d'assurance
d'indemniser 300 familles, alors que les chiffres du gouvernement vous disent qu'il n'y a eu que 79 morts. Il y aura quelque chose. Et connaissant bien les compagnies d'assurance, comment elles fonctionnent, il y aura forcément des influences sur ce qui mène l'enquête.
Mais merci beaucoup. Je rappelle que le débat aujourd'hui concernait le domaine du transport en Afrique, un débat qui nous permettait de voir encore un petit peu les problèmes auxquels le développement de l'Afrique est confronté. Nous étions avec Mbala Elanga Edmond, sociologue au Cameroun, Issa Abdou Nyonlihenza, enseignant au département de géographie à l'université de Niamey, spécialiste aussi des questions de transport, et Dr Yves Ekwe Amaizo, expert de transfert de technologie et directeur du think tank Afrocentricity. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et merci à vous autres auditeurs de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre thème sous l'arbre à palabres.